reconnaîtrez peut-être pas complètement la voix. Enfin, je vais faire mon possible. J'ai eu Nicolas Monteil au téléphone et encore une fois, il était, je pense, désolé de ne pas pouvoir venir. Il nous a en revanche envoyé un document extrêmement intéressant et qui illustre doublement ce qu'on a vu ce matin, puisqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs qui ont été très largement présentés dans l'intervention de Christophe Senet dans un territoire qui a été très bien évoqué par l'intervention de Delphine Kérosbaï et de Valérie Vattier. Et là, il a choisi de se focaliser sur, comme vous le voyez à l'écran, alors je vous dirais beaucoup, vous le voyez à l'écran, hein, la politique d'éducation artistique et culturelle dans l'Académie de Reims. Donc il a choisi une double focalisation pour montrer comment, j'allais dire, faire son marché dans des dispositifs nationaux pour optimiser des activités sur un territoire donné. Donc, il s'est focalisé sur l'éducation artistique et culturelle dans l'Académie de Reims, et le sous-titre est explicite, des dispositifs nationaux à la mise en œuvre. Là, ce sont les cinq points qui sont déclinés. Alors, j'ai mis à disposition un tiré à part qui présente donc justement le plan de cette intervention, ainsi que ressources, qui est là. Parce que ce sont des indications extrêmement précises et ça vous évitera de noter comme des fous. Donc on va décliner ces cinq points. But et objectif d'une politique d'éducation artistique et culturelle. Donc ce que Nicolas Monteil met bien en valeur, c'est qu'il y a eu là aussi de grandes évolutions entre la conception d'André Malraux, qui était celle de procurer à l'enfant un choc esthétique à partir duquel tout allait se passer, avec ensuite la conception qui a été mise en œuvre dans les années Jack Lang, qui était beaucoup plus d'accentuer la médiatisation, de favoriser une approche sensible. Et de là sont nées les classes à Pâques, projets artistiques culturels, les ateliers artistiques, les dispositifs, les actions accompagnées de conseillers culturels. Donc là, je pense que nous aurons des traces de cette écrite, de cette journée d'études, et on retrouvera bien entendu ces diapositives dans un exposé qui cette fois-ci sera rédigé, commenté, illustré par Nicolas Monteil. Donc ça, c'est le premier point, but et objectif d'une politique d'éducation artistique et culturelle. C'est quelque chose à définir fondamentalement, ça a déjà été dit, il insiste lui aussi là-dessus, parce que rien ne se fera sans la motivation des équipes, on l'a dit aussi, et cette motivation des équipes ne peut naître que de ce travail concerté et préalable, cette réflexion concertée et préalable. Alors on va se trouver avec un cadre national. L'histoire des arts qui devient vraiment un enseignement à l'école, la réforme du lycée qui va développer un volet culturel, le lycée doit nommer un référent culturel, doit s'inscrire dans l'opération Ciné-Lycée, doit systématiser des partenariats avec des structures. Des dispositifs, je l'ai dit, les classes à Pâques, les ateliers artistiques, les services éducatifs, les résidences d'artistes, les pré-AC. Des concours et opérations diverses qui vont fleurir, quelquefois de façon quasiment, je ne dirais pas excessive, mais quelquefois de façon peut-être un peu brouillonne, ou pas. On a vu d'excellents exemples, il y en a qui sont peut-être moins pertinents. L'accumulation des textes et dispositifs, donc là... S'il parle d'accumulation, je pense qu'il y a effectivement là beaucoup de choses qui se superposent, beaucoup de choses qui peuvent peut-être présenter des contradictions, je ne sais pas. En tout cas, c'est là qu'on va être amené peut-être à faire des choix de ce qu'on va privilégier dans les actions que l'on va mener. Et effectivement, nécessité de faire des choix au niveau académique. Donc je lui ai demandé des exemples de choses qui n'avaient pas été retenues, par exemple, dans les actions qu'il pilotait. Donc j'ai comme exemple qu'au niveau académique, ils ont choisi de ne pas mettre en place certains concours comme Vieille Maison Française, parce que les actions du Préac Patrimoine de Champagne-Ardenne le remplacent. Et par exemple, l'opération Élève au concert, qui est une opération labellisée nationalement, n'est pas mise en place non plus en tant que telle, parce qu'il y a un PAG, on verra, on parlera des PAG, avec l'opéra de Reims ou avec des chorales ardennaises, et que ça ferait double emploi. Donc là, des dispositifs locaux qui fonctionnaient ont été privilégiés par rapport à des dispositifs nationaux qui auraient été peut-être un peu plaqués et qui, de toute façon, auraient amené à une dispersion des moyens. Alors à propos du niveau académique, il y a Champagne-Ardenne a une grande chance, une grande chance, c'est que le découpage administratif en Champagne-Ardenne, le découpage académique correspond au découpage de la région. Il y a une superposition, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, on décline au niveau académique, au niveau départemental, au niveau de l'établissement. Donc au niveau académique, prise en compte du contexte, on constate dans cette académie qu'il y a une dominante rurale et donc une nécessité particulièrement forte d'impliquer les collectivités. Au niveau académique, le choix est fait également de se concerter avec les partenaires, et entre les PAG et les PAC, ou les AA, on a choisi les PAG, qui sont les, alors bien sûr ça va m'échapper, les projets artistiques globalisés. Pourquoi ? Parce qu'ils disposent de financements qui sont mieux maîtrisés au niveau académique. Les partenariats font se faire avec l'État et les collectivités sur des dispositifs. Donc l'État, représenté par le rectorat et la DRAC, va s'appuyer, au niveau de l'État, on va s'appuyer sur des conventions, sur des cahiers des charges. Au niveau du Conseil général, on va signer un accord cadre et on va faire avec la diversité des positionnements des différents conseils généraux, département par département, avec des disparités et des choix assez grandes et des choix qui peuvent être assez différents. Au niveau départemental, donc on retrouve les PAG qui, encore une fois, sont favorisés pour ces questions de maîtrise et en particulier financière. Il souligne également là la diversité de positionnement des conseils généraux qui vont soit soutenir des dispositifs académiques, soit dans certains cas s'appuyer sur leurs propres dispositifs. Par exemple, le Conseil général des Ardennes met en place un festival, Les enfants du cinéma, qui touche tous les élèves du département. Il ne finance donc pas un collège au cinéma, qui n'a ainsi pas lieu dans les Ardennes, considérant que ce qui est important, c'est qu'il y ait une éducation à l'image dans le département, même si c'est en dehors du dispositif national et académique. Encore une fois, c'est l'efficacité, c'est la rationalisation des moyens mis en œuvre qui a été privilégiée. Au niveau de l'établissement, donc là, on voit dans quoi s'inscrit l'établissement, et j'insisterai sur le dernier point qui est essentiel pour un établissement, c'est la valorisation et la mise en cohérence dans le volet culturel du projet d'établissement. Ça, c'est peut-être quelque chose que nous retrouverons au moment de la table ronde. Alors, les dispositifs, là, il en évoque deux qui sont particulièrement mis en œuvre académiquement. Alors j'ai tout à fait oublié de vous préciser les fonctions de Nicolas Monteil, ce qui n'est pas bien et ce qui ne permet pas de comprendre d'où il parle. Nicolas Monteil est délégué académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle au rectorat de Reims. Donc c'est à ce titre qu'il intervient en tant que délégué académique à l'éducation artistique et l'action culturelle, conseiller technique du recteur. Donc là, ce qu'il présente, ce sont les deux dispositifs qui sont favorisés et on va le voir de façon tout à fait complémentaire. Donc les PAG, projets artistiques globalisés, donc on les redéfinit et on insiste sur l'intérêt d'une maîtrise au niveau académique possible par le mode de financement et l'intérêt qu'il présente dans la possibilité de fédérer des classes de différents établissements autour d'une structure culturelle partenaire. Alors ces PAC, si on regarde la carte, c'est extrêmement parlant. On voit quel est le rayonnement, quelle est l'implantation et quel est le rayonnement de ces PAC. Et on s'aperçoit que du fait des éléments qui les constituent, les PAG s'appuient sur des structures qu'on va trouver en zone urbaine et périurbaine. Donc on voit très bien qu'il y a des blancs sur la carte. C'est pourquoi au niveau de l'académie, on a considéré que le dispositif tout à fait complémentaire était celui des résidences d'artistes, qui, elles, vont pouvoir être implantées dans des zones qui ne correspondent pas à des grosses structures culturelles et éducatives. Les résidences d'artistes, on en reparlera aussi. Donc là, est défini les moyens, les objectifs et les moyens d'un fonctionnement intéressant des résidences d'artistes, thème qu'on a beaucoup galvaudé. Quelquefois, on parle de résidences d'artistes pour une visite de 3 heures. Enfin, voilà, il ne s'agit pas vraiment... On est dans la vraie résidence d'artistes et... Voilà leur implantation, et si on superpose les deux cartes, on s'aperçoit encore que, moi je me pose des questions. Alors moi aussi je me pose des questions, qu'est-ce qui se passe là? Alors il y a sûrement des réponses extrêmement pertinentes, hein. C'est peut-être une zone forestière, je ne sais pas. J'aimerais qu'on me donne des éclaircissements, on m'en donnera sûrement, je fais du mauvais esprit. Mais néanmoins, je pense que c'est tout à fait. Je pense que cette façon de concevoir deux dispositifs privilégiés en complémentarité pour avoir une couverture intéressante du territoire est tout à fait une bonne chose. Alors, j'en viens à ça dont vous trouverez justement un tiré à part en pile avec les programmes, les ressources au niveau de l'académie, donc où on se renseigne et qui on appelle. Quelqu'un tout à l'heure disait on ne sait pas à qui s'adresser, donc là, si vous voulez un PAG, si vous voulez une résidence d'artiste, si vous voulez un AA, vous avez les téléphones et les adresses et les sites internet. Une autre implantation intéressante, c'est celle des services éducatifs de l'Académie de Reims, parce que tout cela fonctionne grâce en particulier à des services éducatifs. Alors, des services éducatifs qui font le lien dans les établissements culturels entre l'éducation nationale et la culture. Il y a quelquefois, là je le dis parce que je l'ai vécu, il y a quelquefois des établissements qui fonctionnent sans service éducatif identifié, avec les mêmes politiques et la même efficacité. Néanmoins, le service éducatif, ça permet de repérer où sont ces services agréés, et on voit sur la colonne de droite qu'on en trouve dans les archives, dans les musées qui ont été tout à fait pionniers en la matière, dans les musées de France et dans les autres musées, dans les bibliothèques, dans les théâtres, dans des établissements consacrés à l'art plastique. Et nous terminons en donnant l'exemple d'un PAG, projet artistique globalisé, autour d'une opération lecture-relecture, écriture-réécriture. Donc cela suppose une mise en réseau. En l'occurrence, on va avoir 3 partenaires, une scène nationale théâtrale, la Comète à Chalon, 8 établissements scolaires dans toute la Marne et le réseau des médiathèques. Donc on va revenir sur le rôle crucial du réseau des médiathèques, mais là il est déjà indiqué que le réseau des médiathèques permet, puisqu'il va s'appuyer beaucoup bien sûr sur la bibliothèque départementale, permet de développer un projet sur toute la Marne et de résoudre les problèmes de déplacement liés à la ruralité, parce que les problèmes de logistique ne sont vraiment pas des faux problèmes. Donc là, on voit quelle est, encore une fois, l'implantation, le rayonnement de ce PAG. Les conditions de la mise en œuvre, une coopération entre une structure culturelle. Je prends les points qui me semblent essentiels. La présence dans les communes disposant d'une médiathèque et d'un collège. Et là, je relèverai le terme d'équipe motivée, on y reviendra. La présence dans la même commune d'un personnel des médiathèques, là aussi motivé, est toujours une question de logistique, mais qui est absolument essentielle. On parlait de visibilité, on parlait de valorisation, on parlait de centres où l'on va pouvoir retrouver... à la fois se concerter et retrouver des traces. Donc les locaux de la médiathèque qui sont susceptibles d'accueillir des élèves, qui vont être susceptibles aussi d'accueillir des expositions qui vont découler de ces opérations, entre autres, je dirais. Les atouts du réseau des médiathèques, et on va terminer là-dessus. Le réseau favorise plusieurs types de coopération. Donc n'oublions pas que c'est là quelqu'un qui est attaché, c'est un professeur attaché au rectorat qui parle, et lui voit très bien chez le partenaire de la lecture publique tout ce qu'il va être intéressant de pouvoir, tout ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Donc, mise à disposition d'un fonds documentaire spécifique, mise à disposition d'un fonds vidéo, en liaison avec la programmation et les choix faits par les équipes pédagogiques. Donc là, on voit qu'on a à la fois des collections, des moyens, une réflexion sur les politiques. Et on retrouve un peu mis en action les possibilités que présentent les médiathèques qui avaient été déclinées plus haut, des locaux de la médiathèque susceptibles d'accueillir des élèves suffisamment vastes et adaptés à des rencontres ou à des interventions artistiques. Donc là on voit tout ce qui va être possible concrètement dans le cadre de ce PAG particulier. Donc pour terminer, je voudrais dire, bon, Nicolas Montaigne n'était pas là pour écouter ce qui a été dit ce matin, mais j'ai été frappée de voir qu'il y avait deux mots qui étaient mis en relation dans une complémentarité parfaite dans l'intervention de Delphine Kerosbaï, c'était équité et motivation. Elle les a cités l'un derrière l'autre. Et là, je crois qu'on a justement une démonstration de ce que peut être la mise en œuvre d'une politique qui recherche l'équité dans un cadre local où va se trouver au départ posée des inégalités entre des zones urbaines et périurbaines et des zones rurales. Je pense aussi qu'on voit très bien que ça ne peut fonctionner qu'avec la motivation des acteurs. Et je pense que cette motivation des acteurs ne peut se créer que par une réflexion concertée, préalable, sur les actions à mettre en œuvre et le pourquoi de ces actions à mettre en œuvre. Merci.